Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
L'objet de ce webinaire, c'est de vous montrer quelle est l'étendue du droit, ce qu'on appelle maintenant le droit de la RSE. Plus fort, pardon. De vous montrer ce que c'est que le droit de la RSE, ce que ça recouvre. Et puis surtout, au MEDEF, qui s'en occupe? Parce qu'on a eu souvent des questions sur qui traite ce sujet. Donc c'est l'objectif. L'idée, c'est pas de rentrer dans l'explication détaillée des textes dont on va vous parler, mais vraiment de vous dresser un panorama de où c'est et, enfin, ce que c'est et où c'est traité chez nous. Et donc d'abord, on va commencer par un préliminaire rapide sur ce qu'est la RSE. Je pense que si vous êtes là, vous connaissez, donc on va aller vite. Et surtout, ce qu'on appelle le durcissement de la RSE, c'est-à-dire un passage de la RSE dans le droit et l'encadrement de la RSE par le droit. Donc la notion de RSE, je vous ai rappelé la définition officielle qui est donnée par Bercy, par référence à la définition donnée par la Commission européenne. C'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Ce que je vous ai souligné, c'est l'intégration volontaire. C'est une stratégie, une démarche d'entreprise qui, à la base, n'est pas réglementaire. C'est pour ça qu'elle va s'appuyer plutôt sur des normes, des labels ou, en général, de la soft law. Je vous ai remis les convictions RSE du MEDEF en lien, donc vous l'aurez avec la présentation, qui sont disponibles sur le site du MEDEF RSE, et les domaines, les grands domaines qui sont couverts par la RSE, ce qui expliquera les développements futurs de ce qu'on appelle le droit de la RSE. La notion sur laquelle je voulais revenir, c'est donc la notion de durcissement de la RSE. Le durcissement de la RSE, c'est parce qu'on a un premier mécanisme très important qui est l'encadrement par le droit dur de la RSE à la marge des marges volontaires, avec quelques grandes dates clés. En France, on a surtout la loi PACTE. Là, je vous ai mis une petite illustration que j'ai empruntée à la BNP Paribas parce qu'elle me semblait claire. Et donc dans la loi PACTE, on a trois éléments importants qui fait qu'on parle de l'inscription dans le droit de la RSE par la loi PACTE. C'est le fait que les entreprises doivent prendre en compte les impacts sociaux environnementaux dans leur activité. Elles sont encouragées à se doter d'une raison d'être et on crée surtout les sociétés à mission. Et les deux autres grands pans qui vont être encadrés par la réglementation, d'abord française, puis reprise en droit communautaire, ça va être d'une part des obligations de transparence, on va appeler des obligations de dire, et d'autre part des obligations de vigilance ou obligations de faire. Et le deuxième mouvement qui contribue au durcissement de la RSE, c'est le fait que, ben justement, comme on a des obligations qui sont mises en place par le droit, on a aussi un passage nouveau devant les tribunaux pour faire valoir ses droits. Et dans le silence des textes ou dans l'obscurité des textes, ben on va aller chercher dans les textes plus classiques de RSE qui sont des normes ou de la soft, et ben ce qu'elles disent. Et donc ça va renforcer un peu l'impact de la soft law en matière de RSE. Voilà pour ces préliminaires très génériques. Donc comme vous l'avez compris, on va vous parler de deux grands pans du droit de la RSE. D'abord, toutes les obligations de dire, avec surtout le rapport de durabilité, mais aussi un ensemble d'obligations de transparence sur les piliers de la RSE très, très divers. Et puis après, on passera aux obligations de faire. Alors sur les obligations de dire, le plus important, on va dire, le plus transverse, c'est le rapport de durabilité. Alors là, je vous ai remis une illustration de l'association Auré qui illustre justement les étapes progressives jusqu'au rapport de durabilité tel qu'on en parle aujourd'hui, tel qu'il est porté par la CRD, donc pas encore applicable. Les prémices, effectivement, c'est en 2001 avec la loi NRE. Qui pose les premières bases en fait d'une information sur les piliers ESG dans le cadre du rapport des sociétés cotées. Donc là, on est vraiment au tout début. Ça va être étendu ensuite par les lois Grenelle et surtout, ça va être étendu par la directive NFRD en 2014 que nous on va traduire en droit français en 2017 avec la DPE, la déclaration de performance extra-financière. Ça a été étendu ensuite par le pacte vert avec deux éléments importants. D'une part, la CSRD qui vient bouleverser la DPEF française qui va être modifiée et qui introduit aussi la taxonomie verte, la définition des activités donc, qui sont vertes d'un point de vue environnemental. Et sur lesquels, en fait, dans les déclarations, on doit déclarer quelles sont les activités qui sont admises, c'est-à-dire les activités qui sont considérées comme non nocives pour l'environnement. Là, un petit focus sur la CSRD. Je vous ai mis en relief les éléments qui nous semblaient importants. Donc, on est toujours sur une information sur les facteurs ESG importants pour l'entreprise, avec la consécration du principe de double matérialité. La double matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour mon activité et comment mon activité impacte aussi ces éléments. C'est ça le principe de double matérialité de façon très résumée. Le rapport qui sera désormais fondé sur une information plus standardisée avec la définition de standards européens qu'on appelle les ESMS. Il y a un reporting qui est inclus dans le rapport de gestion et vérifié avec à terme la même rigueur que le rapport financier avec un lien renforcé entre les deux volets financiers et extra-financiers. Cette réglementation, elle est suivie par le groupe de travail de finances durables et performances extra-financières en EDF que j'anime aux côtés de Karine Merle au pôle économie. Et à ce sujet-là, je vous informe, si vous ne l'avez pas encore vu, qu'on aura un webinaire dédié vraiment sur la CSRD et son application en France dans le cadre de notre semaine de l'entreprise responsable et inclusive le 13 octobre prochain. Alors là, du coup, je vous ai rappelé un petit peu les échéances d'entrée en vigueur, mais on va aller vite puisqu'on aura vraiment un webinaire dédié. Mais voilà, la CSRD va entrer en application et s'appliquera en 2024 aux très grandes entreprises pour la grande majorité qui réalisait déjà une DPEF pour l'exercice 2024 et puis progressivement jusqu'en 2028 avec des exigences accrues, notamment en termes de vérification du rapport. En dessous, je vous ai remis le calendrier prévu pour les autres textes qui l'accompagnent avec deux choses importantes. D'une part, les standards, les fameux standards européens sur lesquels doit être fondé le rapport. Donc là, on attend la publication des standards transverses, mais après, on aura aussi les standards PME et les standards sectoriels. Et puis aussi, un autre élément important, la taxonomie digitale du rapport, c'est-à-dire les éléments qui permettent de taguer le rapport, des éléments quantitatifs et qualitatifs dans le rapport pour extraire les données. Donc j'arrête de vous inviter avec la CSRD, puisqu'on aura un webinaire dédié. On va parler des obligations thématiques de dire en RSE.
Oui, donc pour faire un focus spécifique sur le pilier S de la RSE, pilier social et notamment l'égalité professionnelle, c'est les seules du coup obligations de dire, donc obligations de transparence sur le pilier social de la RSE. Il y a deux déclinaisons des obligations de transparence en termes d'égalité professionnelle. D'abord l'index égalité professionnelle, qui impose aux entreprises d'au moins 50 salariés de publier la note qu'elles obtiennent à l'index égalité professionnelle. L'index égalité professionnelle, il est fait de différents indicateurs, donc 5. Ces indicateurs, ce sont les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à poste et âge équivalent, les écarts de répartition entre les augmentations individuelles, les écarts entre les promotions, le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, ainsi que la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Depuis la loi qu'on a appelée loi RICSIM 2021, c'est plus uniquement le score global obtenu sur 100 à l'index qui doit être publié sur le site internet de l'entreprise et communiqué au ministère du Travail, mais également les sous-scores, c'est-à-dire les scores obtenus à chaque indicateur. On doit aussi, depuis la loi RICSIM, publier les mesures de correction et les mesures de progression dans le cas où les entreprises obtiendraient un score inférieur à 75% et un score inférieur à 85%. Pareil, ces mesures de correction et de progression doivent être publiées sur le site internet de l'entreprise et communiquées au ministère du Travail. On a un groupe de travail qui a été lancé au Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance qui est placée sous la Première ministre, qui a pour but de faire un bilan de cet index et de préconiser des améliorations, ce qui donnera lieu à un rapport qui sera publié au premier trimestre 2024. Et donc, on avait lancé l'année dernière un groupe de travail sur ce sujet. Donc, on vous fera parvenir le rapport une fois qu'il sera publié. Donc, la deuxième obligation de dire relative à l'égalité professionnelle, a été introduite aussi par la loi Rixin, c'est d'une part de publier annuellement les écarts de représentation entre les femmes et les hommes au sein des cadres dirigeants, mais aussi des instances dirigeantes. Donc c'est depuis le 1er septembre 2022, il doit y avoir une publication annuelle de ces écarts pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui doivent le faire via une procédure et ça apparaîtra sur le site du ministère du Travail. Cette loi Rixin, elle a aussi introduit des quotas de représentation entre les femmes et les hommes au sein des cadres dirigeants, mais également des instances dirigeantes, à une échelle plus large en termes de temps, c'est-à-dire que ces quotas qui concernent toujours les entreprises de plus de 1000 salariés imposent 30% de représentation de femmes ou d'hommes en fonction du genre sous-représenté à compter du 1er mars 2026, puis un quota de 40% à compter du 1er mars 2029. En 2029, les entreprises qui n'auront pas complété, ils font atteindre ce quota, disposeront d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité, puis il y aura des sanctions financières. On va faire un webinaire dédié au sujet de l'égalité professionnelle, donc à ces deux sujets et plus largement, le 26 octobre prochain. Et c'est un sujet qui est suivi par moi-même, de l'équipe RSE, mais également par Pierre Voisine, Florian Combi et Anne Gaucher au pôle social.
Alors, comme la RSE, vous savez, est composée de plusieurs piliers, ce qu'on voulait rappeler, c'est qu'effectivement, dans plusieurs thématiques de la RSE spécialisées, on a déjà des obligations de transparence. C'est le cas en environnement, puisqu'en environnement, on a un grand principe qui est celui du droit à l'information. Si vous voulez, le droit à l'information en environnement, c'est pas du droit de la RSE, c'est du droit de l'environnement, c'est ce que je voulais vous rappeler. Donc là, je vous renvoie, si vous voulez plus de précision, au webinaire qu'on a animé sur le droit de l'environnement, qui consacre une partie à ce droit à l'information. Vous rappelez que ce droit à l'information qui existe en environnement, c'est des informations détenues par les autorités publiques. Donc c'est pas directement une obligation de transparence des entreprises vis-à-vis du public, c'est indirectement, puisque les entreprises vont communiquer des données aux autorités publiques et les autorités publiques doivent communiquer les données dont elles sont en possession au public. Voilà. Donc là, je ne détaille pas, mais ces sujets-là, il est plutôt suivi par le groupe de travail droit de l'environnement, dont le futur juriste Sherpa arrive prochainement à la direction juridique. Par contre, c'est quelque chose qui se rattache plus spécifiquement au droit de l'environnement, c'est le droit de la RSE, pardon, c'est tout ce qui est encadrement de la communication qu'on fait à ses parties prenantes, et donc notamment l'encadrement de greenwashing, pour éviter de greenwashing. Dans ce cadre-là, on a plusieurs dispositifs qui, chez nous, vont se retrouver suivis, du coup, et c'est assez logique, par les personnes qui suivent le droit de la consommation, enfin, le sujet de la consommation, et les personnes qui suivent, du coup, le sujet environnement, ce que je vous ai remis en bas. Et donc, on va avoir, côté français, on a eu des dispositifs importants dans les lois AGEC et climat, avec notamment l'information sur les caractéristiques environnementales des produits, l'affichage environnemental des produits, ou l'encadrement des allégations climat. Et côté européen, en ce moment, donc on a un projet de directive qui encadre les allégations environnementales et qui prévoit certaines choses. Ces deux textes-là sont donc suivis par l'OGT Économie Circulaire, qui est animé par Sébastien Sureau, et par Christine Baratelli, qui anime la consommation, avec un regard du juriste environnement du pôle juridique également. Alors, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la deuxième partie, qui est les obligations de faire en RSE, avec en gros 3 éléments, tout ce qui concerne le devoir de vigilance, loi française et puis la projet de directive européenne sur le sujet, les textes de vigilance sectorielle qui sont d'ailleurs plutôt européens, et puis les autres obligations de faire. Sur le devoir de vigilance, donc là pareil, l'idée c'est pas de vous faire un webinaire sur le devoir de vigilance, c'est de vous rappeler ce que c'est le devoir de vigilance, c'est l'idée que les entreprises ont le devoir de mettre en œuvre les mesures qui permettent d'identifier, de prévenir et d'atténuer les risques qui sont liés à leur activité entendue au sens large, donc incluant leur chaîne de valeur, sur les thématiques que sont les droits de l'homme, l'environnement, la santé et la sécurité. Ça a été introduit en France par une loi de 2017 qui s'est notamment appuyée, on va dire, sur l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Pour justifier un petit peu pourquoi on avait besoin de cette loi. Et donc depuis février 2022, on a une proposition de directive européenne, la CS3D pour Sustainability Due Diligence Directive. Et du coup, cette directive reprend l'idée de l'obligation de vigilance, en attendant un petit peu par rapport à la loi française. Je rentre pas dans le détail du devoir de vigilance pour deux raisons, notamment parce que le sujet est suivi par Alec Buisson, chez nous, au pôle éco international, avec notamment son comité conformité et déontologie internationale, même si effectivement c'est fait en lien avec le service juridique, c'est cette instance-là qui travaille sur le sujet, parce qu'aussi on a des déclinaisons sectorielles de son devoir de vigilance. Alors, sur les déclinaisons sectorielles, on a une un peu plus ancienne, qui est en fait le règlement européen sur les minerais de conflit, qui est en fait l'application en Europe, pour ceux qui connaissent, du système de certification du processus de clean, qui porte notamment sur les diamants et les minerais de sang, on appelait ça, je crois, au début. Donc ça, c'est un premier élément, donc qui commence un petit peu à dater, 2017. Et puis, plus récemment, on a deux textes importants. On a le règlement de déforestation importée, qui porte sur les produits qui, importés en Europe, impliquent une déforestation dans leur pays d'origine. Et puis aussi le règlement d'Atri, qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie des règlements nouveaux sur la conception des produits, mais qui inclut une partie spécifique sur les obligations de vigilance. Pour vous préciser que ces textes-là, donc c'est de la vigilance, donc la vigilance chez nous, c'est toujours au comité d'ALEC, donc c'est suivi par ALEC. Et après, selon les sujets, on va impliquer d'autres acteurs. Et donc, par exemple, sur déforestation importée, eh ben, c'est en collaboration avec Sébastien Chauveau à l'environnement. Et donc, on organise sur ce sujet-là un webinaire dédié le 7 novembre prochain sur déforestation importée. Et puis, sur travail forcé, je vais passer un moment pour terminer, sinon. Alors, oui. Et donc, il y a une proposition qui est en cours, toujours sur une thématique spécifique de vigilance, sur l'interdiction des produits issus du travail forcé. Et donc ça, c'est suivi surtout par, toujours par Alec, puisqu'on est toujours dans la vigilance, mais aussi par Anne, Vaucher au social, et puis un peu par Nice aussi, chez nous en RSE. Juste pour vous rappeler qu'on est en train de monter une journée thématique sur vigilance avec toutes ces personnes-là, mais la date n'est pas encore arrêtée, on projette plutôt fin du premier trimestre 2024, voilà. Et dès qu'on en saura plus, on diffusera l'information, mais ça permettra de vraiment faire une journée dédiée aux obligations de vigilance des entreprises. On espère qu'à cette date-là, on en saura plus sur la CS3D où elle sera, et puis ça nous permettra de revenir sur toutes ces thématiques spécifiques de vigilance.
On a une petite question sur la CSRD et la CS3D. Mmh. Est-ce que les éléments de CSRD et CS3D se basent sur des informations déjà existantes, type normes ISO 2600 ou reporting SBTI ou autre?
Oui, alors nous, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'assurer, un des enjeux qu'on a, c'est déjà d'assurer une bonne coordination entre CSRD et CS3D. Le fait que ce soit suivi par deux jetés différents chez nous, ça, c'est pas problématique puisqu'on travaille ensemble. Notamment, pour assurer cette coordination, là, pour ceux qui suivent un petit peu ce sujet-là, l'EFRAG a sorti ses projets de guide, son grand projet de guide sur chaîne de valeur, notamment, dans le cadre de l'application des ESRS pour la CSRD. Mais bien sûr qu'on travaille avec ALEC et avec les membres de son comité pour s'assurer que quand on parle de chaîne de valeur dans CSRD, on parle de la même chose dans CS3D. Donc, il y a ce travail déjà de mise en cohérence des deux réglementations entre elles. Et ensuite, au-delà de ça, notre objectif, c'est toujours d'assurer une interopérabilité maximum. Donc, c'est le message qu'on porte. C'est ceux qui sont portés globalement par les entreprises, de dire justement, si on utilise un outil ou une norme, et que cette norme est reconnue, il faut qu'il puisse avoir un maximum d'interopérabilité entre les normes. Si vous avez suivi, vous avez vu qu'à la fin août, début septembre, l'EFRAG a communiqué justement sur l'interopérabilité recherchée avec le GRI et que c'était quand même en bonne phase d'arrivée. Il y a eu un travail qui a été fait aussi sur les normes de l'ISSB sur le climat. Donc oui, c'est un des éléments importants des prises de position d'une BEF.
Sur les obligations plutôt, on a dit sectorielles, mais c'est plutôt thématique de faire. Sur le pilier, encore une fois, social et sociétal, on en a plusieurs qui touchent différentes thématiques. Notamment la première, c'est le handicap. C'est un sujet qui est traité par Simon Métayer au social et moi-même. Donc tout d'abord, en fait, il y a la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc chaque entreprise d'au moins 20 salariés a une obligation d'employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de son effectif moyen annuel. Donc elle doit effectuer chaque année une déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, DOETH. Cette déclaration, elle est faite par le biais de la déclaration sociale nominative. Donc les entreprises qui ne respecteraient pas ce seuil de 6% doivent payer une contribution financière qui est reversée à l'AGFIP, donc à l'association de gestion du fonds de développement de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui a du coup pour objectif de soutenir l'emploi des travailleurs handicapés. Les entreprises de moins de 20 salariés du coup ne sont pas soumises à cette déclaration. En revanche, dans leur DSN, une déclaration sociale nominative, elles doivent déclarer le statut de travailleurs handicapés, s'il y en a au sein de leurs salariés. C'est pas vraiment une obligation de faire, mais j'ai souhaité l'intégrer dans ce panorama puisqu'il existe un baromètre emploi et handicap qui n'est pas obligatoire comme l'était l'index égalité professionnelle dont on a parlé plus tôt, mais c'est sur la base du volontariat et c'est un baromètre qui permet aux dirigeants d'entreprise de publier des données en lien avec les travailleurs handicapés, notamment le taux d'emploi de personnes handicapées au sein de l'entreprise, la sensibilisation du personnel et la politique en lien avec le handicap, les usages et pratiques de recrutement inclusif, le maintien en emploi des collaborateurs handicapés, mais ça intègre aussi l'accessibilité numérique et l'achat inclusif. Et en fait, c'est assez simple pour remplir ce baromètre. Il y a un formulaire à remplir sur le ministère du Travail que d'ailleurs j'ajouterai à ces slides. Voilà, donc là, c'est pas une obligation de faire, c'est du volontariat, mais en tout cas, ça existe et il est très peu connu. Dans le domaine de l'égalité professionnelle, donc encore une fois un sujet qui sera traité pendant notre webinaire sur l'égalité professionnelle en octobre, mais il y a une obligation de négociation pour le coup, donc une obligation de faire. Donc les entreprises qui ont une ou plusieurs sections syndicales d'organisation représentative et un ou plusieurs délégués syndicaux doivent avoir une négociation sur l'égalité professionnelle portant notamment sur les écarts de rémunération, et la qualité de vie et les conditions de travail. Et notamment, il y a des obligations de négociation liées à l'index, à la note obtenue à l'index. Donc, si une entreprise a moins de 75 points sur 100 à l'index égalité professionnelle, donc la négociation doit porter sur des mesures de correction liées à cet index. Donc, voilà, on y reviendra plus en détail avec Pia, Florian et Anne lors du webinaire sur l'égalité professionnelle. Donc, je passe à la diversité. Diversité, il n'y a pas d'obligation de négociation. Il y a plutôt des obligations de non-discrimination. Donc, c'est une discrimination, voilà, pas forcément obligé de rappeler ce que c'est, mais c'est un traitement défavorable en lien avec un critère défini par la loi. Il existe 25 critères, donc vous les voyez sur le petit visuel sur la slide. Donc, c'est une discrimination, elle doit être fondée sur un de ces critères et relevée d'une situation visée par la loi qui peut être un accès à l'emploi, un accès à une promotion ou autre. Donc ça, je passe assez rapidement. Ces 25 critères, vous les retrouvez du coup sur la slide, mais aussi en ligne sur le ministère du Travail. Elle est basée sur voilà des conventions internationales, mais aussi le législateur français a souhaité ajouter notamment les questions de discrimination se référant à des motifs classiques comme la nation, le nom, l'apparence physique, mais aussi à des situations spécifiques, notamment le lieu de résidence, la perte d'autonomie. Donc c'est une liste qui est assez vaste. Concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, là, ça relève de l'obligation de santé et sécurité de l'employeur de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Dans le Code du travail, il y a différents types de violences, Code du travail et Code pénal, différents types de lutte contre, enfin, de, pardon, de violences sexistes et sexuelles, notamment l'agissement sexiste, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle. On reviendra, en détail, sur, notamment, les textes, les définitions, mais aussi les moyens de lutter contre les violences sexistes et sexuelles en entreprise lors d'un webinaire qui aura lieu le 23 novembre prochain et qui est porté du coup par moi, mais aussi le pôle social, donc Florian, Anne et Pia. Voilà, je suis passée rapidement puisqu'on y reviendra.
Juste du coup, pour compléter ce que vient de dire Inès, qui était très détaillé, quelque chose d'un peu plus éloigné. En fait, là, Inès, ça vous a rappelé toutes les obligations de résultat qu'on a sur ces champs-là. Donc là, on a vraiment une obligation de résultat qui est posée, avec y compris des sanctions pénales en cas de non-atteinte. Ça, si on n'a effectivement pas protégé ses salariés, on risque des sanctions pénales. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Alors, du coup,
question. Alors, par exemple, dans une CSRD, doit publier une KPI sur le pourcentage d'employés issus d'une origine différente de celle de la France, ou c'est discriminant? Est-ce que dans une CSRD...
Justement, oui. Ce qu'on a souligné, c'est que nous, on avait effectivement en droit français des choses qui étaient interdites. Alors là, par contre, on n'a pas encore, je vais être très transparente, on n'a pas refait le point avec le social, c'est prévu là, sur la... les publications des ESRS publiées par la, enfin, pas publiées, adoptées par la commission fin juillet, qui sont en attente de publication d'ici la fin de l'année, si le Conseil et le Parlement ne s'opposent pas. Donc, c'est partie des points qu'on doit vérifier par rapport aux dernières remarques qu'on a fait, ce qui a été pris en compte. Mais nous, on a bien souligné à chaque fois qu'on avait des difficultés liées à notre système français. Donc ça, c'est un cap, la discrimination avec les statistiques, qui on n'a pas de statistiques techniques, on a des choses qui sont interdites. On a souligné aussi, si je pense au social, d'autres difficultés qui sont liées au contraire à notre système qui est très, sur certains points, très en avance, donc par exemple sur les problèmes d'accidentologie du travail, où on a une définition de l'accident du travail qui est très très large pour permettre aux salariés de bénéficier du système assurantiel qui est mis en place, mais qui peut être discriminant par rapport à d'autres pays qui ont un système qui est fondé différemment, et donc qui ont une définition de l'accident du travail beaucoup plus restrictive. Ça ne veut pas dire que nous on a plus d'accident du travail, ça veut dire qu'on découvre son logique assurantielle. Alors là, on voulait vous rappeler les prochains rendez-vous, ceux qu'on vous a annoncés, on vous a facilité le travail, puisqu'en fait, là, on a des webinaires dédiés où on va rentrer dans le fond des sujets. Alors, avec un petit bémol, le 9 octobre, c'est pas un webinaire, c'est un événement présentiel, mais qui sera retransmis. C'est la journée d'ouverture de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Et cette année, on a choisi d'intégrer dans cette semaine-là ce qu'on fait depuis 2019 sur le bilan qui est réalisé en fait de la DPE, la Déclaration de performance extra-financière, avec les sociétés EY et Deloitte. Et cette année, on l'intègre dans la série. Et donc, ce sera à 14h le lundi 9 octobre. L'idée, c'est vraiment de faire le suivi par rapport aux années précédentes, donc sur un certain nombre de statistiques pour voir comment ça évolue, mais aussi de mettre en avant les bonnes pratiques sur, justement, les pratiques qui nous semblent qu'on a appelé CSRD Ready. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas loin d'être aligné avec ce que demande la CSRD pour l'année prochaine, donc pour les premiers mois. Après, par contre, on a les webinaires qui ont lieu dans le cadre de l'Académie MEDEF. Le vendredi 13 octobre, donc, l'introduction au rapport de durabilité, le nouveau rapport donc, de transposition de la CSRD en France. Ensuite, le webinaire le 26 octobre sur l'égalité professionnelle, celui du 7 novembre sur la lutte contre la déforestation et celui du 23 novembre sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Là, on vous a mis les rendez-vous jusqu'à la fin de l'année. Parce que sur l'année d'après, c'est un projet, mais c'est pas encore suffisamment arrêté en termes de date pour qu'on puisse vous les communiquer.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas sur le chat. Je crois que vous avez fait à peu près le tour de ce que vous vouliez transmettre. Bon, quoi qu'il en soit, ça laisse quand même la possibilité, si on le souhaite, de poser des questions par mail. Il y a des contacts qui ont été indiqués.
Sur les sujets,
donc effectivement, ces personnes sont disponibles. Il y a des personnes qui demandent les horaires des rendez-vous présentés, des webinaires.
C'est dans le cadre de l'Académie MEDEF.
Oui, il y aura alors vous pouvez retrouver toutes les horaires et les liens pour vous inscrire aux différentes rencontres, sur le site l'académiemedef.fr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.
Peut-être on pourra envoyer nous le lien pour l'inscription de l'agenda d'ouverture de la série.
Voilà, effectivement, pour la série.
On va le remettre dans la slide.
Ouais. Exactement, ouais, c'est une très bonne idée. Peut-être même qu'on peut mettre sur le slide les liens d'inscription.
Oui.
Voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions. On a une question sur les sanctions concernant les non-publications CSRD, les plans d'action, KPI, je ne vois pas la question. Donc,
Sur les sanctions, je peux faire une réponse générique. Ce qui est prévu, c'est de pouvoir avoir une procédure d'injonction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction parce qu'on n'a pas publié, enfin, à ce stade. Ce stade, il n'y en a pas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est effectivement ce que la transposition, c'est de dire, ben, en fait, vous pouvez enjoindre à la société de déposer le rapport ou de compléter le rapport, si éventuellement, il manque toute une partie du rapport. En sachant que ce qui va être compliqué d'apprécier, c'est est-ce qu'il manque une partie du rapport ou est-ce que ça a été déclaré non matériel par la société. Donc ça, ce sera un autre point. Voilà, donc c'est la sanction qui est prévue. Alors ça veut dire aussi éventuellement des astreintes hein, qui peuvent tomber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. En cas d'injonction, si c'est prononcé sous astreinte, ça peut être aussi assez long. Donc c'est ça qui est prévu actuellement. Après, je pense que vous avez suivi, mais effectivement, il est question notamment d'assortir le bénéfice de certaines choses au respect de la publication de la CSRD, c'est ce que prévoit le projet de loi Industrie Verte. Par exemple, pour exclure les entreprises qui n'auraient pas déposé leur rapport du bénéfice d'un marché public ou bien public. C'est pas voté,
Merci. Est-ce que la loi prévoit quelque chose pour dans les indicateurs d'égalité pour les genres autres que hommes-femmes?
Non, pas pour la loi. En fait, dans les critères de discrimination, il y a identité de genre, donc il n'y a pas écrit être une femme, être un homme. D'ailleurs, je crois qu'il y a sexe et genre différenciés, d'ailleurs. Donc oui, mais en fait, dans les critères, par exemple, de représentation, ce que je disais sur l'index égalité professionnelle ou sur les obligations de transparence sur la représentation des femmes, hommes dans les instances dirigeantes et les cadres dirigeants, non, c'est binaire. Mmh. En revanche, c'est reconnu comme dans les critères de discrimination, l'identité de genre est reconnue comme donc, l'identité de genre, c'est large, ça peut inclure autre, le passage de l'un à l'autre.
Très bien. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes si vous avez encore des questions. Voilà, ça n'épuise pas le sujet. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions par mail. Le support ajusté, pour le coup, vous sera envoyé d'ici la fin de journée. Voilà, on peut rappeler peut-être la date du prochain rendez-vous.
Du coup, ce sera le 9 octobre.
Oui.
Voilà. Dans le cadre de la série, le bilan DPE.
Peut-être la série expliquée.
La semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Donc, c'est pour mettre en avant, en fait, notamment les bonnes pratiques en matière de RSE, de diversité et d'inclusion. La première journée, donc, c'est une journée qui se passe au MEDEF en présentiel, mais qui est rediffusée aussi, avec des tableaux rondes. Alors, moi, je m'occupe plus de la partie DPE, et puis la présentation des baromètres MEDEF que vous connaissez peut-être. On a deux baromètres qui existent depuis 2012 sur l'égalité des chances. Et un deuxième baromètre qui est plus récent, sur la perception de la RSE. C'est deux baromètres de perception. Et puis deux tables rondes qui sont plus sur la thématique d'Inès.
Une table ronde sur les questions d'inclusion des personnes LGBT en entreprise. Donc ça rebondit sur la question juste avant, qu'on organise en partenariat avec une association qui s'appelle L'Autre Cercle, dans laquelle les questions de genre seront abordées et pas uniquement les questions d'orientation sexuelle. Et ensuite, une autre table ronde qui est organisée par le partenaire de notre événement, en fait, avec qui on le co-organise, qui est une association qui s'appelle l'Association française des managers de la diversité. Ils vont organiser une table ronde avec Numéum sur le management inclusif, notamment dans le secteur du numérique. Et puis, on aura des prises de parole institutionnelles, notamment à Patrick Martin, président du MEDEF, qui sera là pour la journée d'ouverture. Et en fait, le reste de la semaine, c'est pour ça qu'il s'appelle Semaine de l'entreprise responsable et inclusive, on va avoir plus d'une centaine de partenaires dans 14 régions de France qui vont organiser, on a 200 partenaires qui vont organiser une centaine d'événements. Les partenaires, c'est des adhérents, MEDEF territoriaux et fédérations professionnelles, mais aussi des pouvoirs publics, des associations, des entreprises, qui vont organiser une centaine d'événements sur une diversité de sujets, notamment ce qu'on a abordé comme le handicap, la diversité, le recrutement inclusif, l'égalité professionnelle, mais également les sujets plus RSE, stratégie RSE, relations avec les parties prenantes. Une grosse partie de ces événements seront aussi soit en hybride, donc retransmis en ligne, soit intégralement en ligne. Donc on vous ajoutera sur les slides le site de la série, on l'appelle comme ça parce que c'est un peu long de dire semaine d'entreprise responsable inclusive. Mais sur ce site-là, vous pouvez vous inscrire et à la journée d'ouverture qui a lieu au MEDEF et en ligne, mais également à l'ensemble des événements proposés par nos partenaires. Donc c'est vraiment dans une logique de fédérer les acteurs et actrice de la RSE en incluant la diversité et l'inclusion, et puis de montrer la richesse de toutes les thématiques qui sont abordées au sein de la RSE.
Donc c'est bien du 9 au 13 octobre, hein, c'est ça. Une petite question sur est-ce qu'il y a quelle est l'incidence du droit international, objectif du développement durable, principe directeur, sur la RSE?
Bah, principe directeur, c'est utilisé, c'est ce que j'ai expliqué brièvement, je vais dire, au début, sur comment en fait on va aller chercher, quand on n'a pas de précision dans le texte, de droit dur, bah, tout ce qui est autour du droit dur et qui va nous aider à comprendre ce que c'est que la RSE, de quoi c'est composé et qu'est-ce qu'on attend des entreprises. Donc, les principes directeurs de l'OCDE, typiquement, quand les arbitres regardent les plans de vigilance, ils vont s'y référer. C'est pour ça que ça leur donne une force peut-être encore plus importante, parce que en l'absence de précision dans des textes du droit dur, on va aller chercher un peu dans ces textes-là, des éléments qui nous permettent qui permettent aux juges, notamment, de trancher des choses qui sont soumises.
Très bien, merci. Je regarde, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Il y a une question par rapport au 13 octobre. Est-ce qu'on aura une légère présentation sur le mécanisme ou un processus à suivre pour la rédaction d'une CSRD?
Du rapport?
Oui.
Alors, l'idée du 13 octobre, c'est plutôt d'introduire le rapport de durabilité à ceux qui sont peut-être pas aujourd'hui membres de nos groupes. Donc, ceux qui l'ont suivi de plus loin en se demandant ce que c'était bien. Et donc, de vraiment vulgariser en une heure ce que c'est, ce que ça implique. Mais on ne sera pas encore sur le versant opérationnel. Parce qu'en fait, les personnes qu'on vise ici, c'est pas celles qui vont faire un rapport dès 2025. C'est celles qui vont faire plutôt un rapport en 2028. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire après, mais ce sera après.
On a une question. Est-ce que ces obligations constituent pour vous un frein à la compétitivité des entreprises?
Non. Enfin, nous, on est en RSE. Donc nous, on considère que la RSE, c'est porteur d'innovation et de performance pour les entreprises et d'attractivité. Donc, alors peut-être que d'autres auront un discours, mais enfin c'est dans les convictions RSE du MEDEF de dire en fait la RSE c'est une stratégie d'entreprise, cette stratégie elle permet de mieux inclure aux parties prenantes, y compris vos salariés, de mieux les associer et de faire en sorte qu'ils partagent vos valeurs, vos objectifs et que donc vous soyez plus attractifs. Donc non, si la question elle est sur la RSE, c'est ma réponse. Si la question elle est sur la CSRD, on va peut-être être plus nuancé en disant que c'est pour ça qu'on veille à une bonne interopérabilité des règles internationales avec les règles de la CSRD, pour que justement les entreprises extra-européennes, on ait aussi des exigences à leur imposer sur un reporting extra-financier.
On a une autre question sur la négociation égalité professionnelle en l'absence de délégués syndicaux pour les plus de 50 salariés. Est-ce que seul le plan d'action est possible? Il n'est pas possible de négocier avec les membres élus du CSE permettant d'éviter de négocier tous les ans. En fait, c'est la proposition de l'adresse locale.
Oui. Alors, moi, je suis pas experte de droit social. Donc, je peux prendre votre question et la partager à nos collègues du pôle social. Et je pense que ce sera un sujet qui sera abordé également le 26 octobre. Voilà, pendant le webinaire MEDEF Academy sur l'égalité ouais. professionnelle, on va aborder et les questions d'index, de quotas et la prochaine directive européenne sur la transparence salariale et les questions de négociation sociale. Donc, soit vous gardez votre question jusqu'au 26, soit je la prends et je la partage pour vous apporter une réponse plus avec une vision juriste en droit social.
Très bien, j'ai l'impression que toutes les questions ont été posées. Voilà, n'hésitez pas, donc on vous répondra, madame, sur cette question. N'hésitez pas à nous solliciter par mail, vous recevrez comme indiqué le support de présentation d'ici la fin de la journée. En tout cas, on vous remercie pour votre participation qui était en nombre aujourd'hui. Merci à toutes les deux également pour la clarté de la présentation et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.